Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique sur 48FM, un nouveau partenariat qui vient de se nouer avec l'ALEP. Muriel Duguay est avec moi aujourd'hui. Bonjour Muriel.
Bonjour.
L'ALEP, tu nous rappelles ce que c'est ?
C'est l'Association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Alors chaque semaine, on va pouvoir retrouver sur cette tranche horaire rediffusée des émissions, des petits magazines, des petites chroniques sur différents sujets d'actualité ou non liés à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi, Muriel ?
Eh bien, nous allons parler du changement ou réchauffement climatique, puisque le 30 novembre a débuté la COP21 à Paris. Il s'agit de la 21e conférence des parties, c'est-à-dire le rassemblement annuel des 195 pays désireux d'agir pour le climat. Donc elle doit aboutir à un nouvel accord international applicable à tous, permettant de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés.
Alors peut-être on va essayer de définir ce qu'est le réchauffement climatique, quelles sont ses origines et quels sont les enjeux.
Voilà, donc l'idée, c'est pendant un mois, pendant ces chroniques nature de 48FM avec l'ALEP, on vous propose de faire le point sur le changement climatique, ses origines et ses risques, et puis de découvrir des solutions et des initiatives locales permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre à notre échelle en Lozère. Donc on découvrira ça avec notamment des invités durant le mois de décembre.
Alors pour commencer, qu'est-ce que le réchauffement ou le changement climatique ?
Alors il est dû en fait à l'augmentation de l'effet de serre.
Et qu'est-ce que l'effet de serre ?
Eh bien, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel à la base qui permet de maintenir la température de la surface de la Terre à une moyenne de 15 degrés. Donc les gaz dits à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère. Il s'agit des gaz de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du méthane. Donc ces gaz forment en fait une couche autour de la Terre qui permet de retenir une partie de l'énergie solaire. Sans cet effet de serre, la température moyenne de la Terre avoisinerait les moins 18 degrés, donc ce serait beaucoup moins vivable. L'effet de serre a donc favorisé le développement de la vie sur Terre. Puis, pendant des centaines d'années, nous nous sommes développés, profitant de ce climat favorable. On a développé nos activités humaines, qui ont rejeté de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, en fait, depuis la révolution industrielle, dans les années 1750, les activités humaines, telles que l'industrie, les transports ou l'habitat, émettent des gaz à effet de serre supplémentaires qui s'accumulent dans l'atmosphère et retiennent encore plus de chaleur qu'à l'état naturel. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel qui provoque un réchauffement accru de l'atmosphère et qui dérègle nos climats. Donc, entre 1970 et 2004, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 70%. Voilà, alors, bien que l'effet de serre soit un phénomène naturel et que des changements climatiques aient déjà eu lieu sur Terre, aujourd'hui la responsabilité humaine du réchauffement climatique est sans équivoque. C'est-à-dire que les mesures directes au thermomètre, par exemple, et indirectes avec l'analyse des carottes glaciaires, des cernes d'arbres ou des coraux dont nous disposons, nous indiquent que la dernière décennie a été la plus chaude depuis au moins 1000 ans.
C'est un réchauffement climatique qui est donc bien réel et qui est actuel.
Voilà, tout à fait. Différents phénomènes ont été observés au cours du XXe siècle, tels que l'augmentation des événements de fortes précipitations, des inondations, des sécheresses plus intenses et plus longues, la fonte des glaciers et du permafrost. Alors le permafrost, c'est le sol qui est gelé en permanence en Alaska et en Sibérie, et qui risque, s'il dégèle, d'accélérer le phénomène, en fait. Et puis on observe aussi l'élévation du niveau des mers et les impacts sur les cycles végétaux et animaux. Donc différents modèles de projection et les différents scénarios étudiés par le GIEC, donc c'est le Groupement international pour l'étude du climat, à l'horizon 2100 envisage une augmentation de la température moyenne mondiale comprise entre 1,1 et 6,4 degrés.
Donc on peut imaginer, suite à cette augmentation de température, l'augmentation également du niveau des océans.
Voilà, entre 18 et 59 cm en 2100. Et sûrement plus parce que ces modèles ne prennent pas en compte l'accélération de la fonte des glaciers et la fonte du permafrost. En fait, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive qui fait qu'en fait les événements vont s'emballer puisque plus la couche de glace est fine, plus elle se réchauffe vite et ainsi de suite, ça accélère le phénomène en fait.
Ça aura pour conséquence, du coup?
Ça aura pour conséquence d'accélérer encore plus vite le réchauffement climatique et de se trouver dans des phénomènes bien plus, dans des scénarios en fait plus dramatiques que ce qui est prévu actuellement. Mais ça, on a encore beaucoup de mal à l'étudier parce que c'est pas pris en compte et la fonte du permafrost, elle est encore très peu étudiée. Voilà. Et après, dans d'autres conséquences, eh bien, il y aura l'inondation de certaines zones côtières. La multiplication des canicules, des précipitations, des sécheresses.
Et qu'en sera-t-il des espèces animales et végétales?
Eh bien, si la température augmente de plus de 2 à 3 degrés, ce sont 20 à 30% des espèces qui sont en danger d'extinction. Il y aura également la diminution des ressources en eau et la baisse des rendements agricoles dans certaines régions du globe, notamment l'Asie et l'Afrique.
Oui, c'est. On parle souvent en ce moment au niveau de l'actualité de migrants. Il faut savoir que c'est un des plus grands enjeux qui va arriver dans le siècle prochain. C'est les migrations dues au changement climatique.
Voilà, tout à fait. Puisqu'en fait, ça va entraîner des crises alimentaires, la raréfaction de l'eau douce et potable, l'augmentation de certaines maladies allergiques et à vecteurs, notamment le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, et donc également des réfugiés climatiques. Donc, par exemple, d'après le rapport annuel du Global Estimate du Conseil norvégien de l'immigration, ce sont 22 millions de personnes qui ont dû abandonner leur domicile en 2013 à la suite d'une catastrophe naturelle, soit trois fois plus que de personnes déplacées à cause de conflits. Alors, ça peut paraître énorme, mais 22 millions, c'est pas du tout les chiffres les plus importants. En 2012, on était à 24 millions. Ça dépend des événements exceptionnels qui se mettent en place. Donc par exemple, 31% ont été déplacés à cause d'un désastre hydrologique, donc inondation, et 69% à cause d'événements météorologiques, tempêtes, ouragans ou typhons.
Alors on n'essaye pas volontairement d'être catastrophique, ce sont des chiffres, ce sont des données scientifiques, d'où l'importance de la COP 21, on va y revenir après. Ce réchauffement climatique global, c'est une réalité et c'est dû à nos activités humaines.
Tout à fait. Donc c'est effectivement, le constat est assez alarmant, mais on a aujourd'hui la possibilité d'agir au quotidien et de chacun faire des choix de consommation, puisque dans l'habitat, dans l'alimentation, dans les transports, on peut mettre en place des mesures qui permettent d'entraîner plus ou moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée maintenant, c'est de voir ensemble comment limiter ces émissions de gaz à effet de serre au quotidien et localement.
Il y a cette COP 21 qui se tient en ce moment. On sait que les différentes COP 21 qui sont tenues par le passé n'ont pas amené grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut attendre de celle-ci? Est-ce qu'elle est plus importante que les autres déjà?
Elle est affichée comme plus importante que les autres puisque les 5-6 dernières COP avaient pour but de préparer celle-là. Et celle-là doit vraiment permettre aujourd'hui de fixer un accord pour tous et assez contraignant. Le but étant vraiment de faire en sorte que les nouveaux pays qui émettent énormément de gaz à effet de serre, tels que la Chine, qui n'étaient pas en fait intégrés dans le protocole de Kyoto puisque ce sont de nouveaux pollueurs suite à leur développement récent, eh ben intègrent ces mesures et cet accord pour que vraiment tous ensemble, tous les pays développés puissent mettre en place des mesures visant à limiter le réchauffement à 2 degrés.
Alors on sait que les pays polluent, les entreprises, hein, les multinationales sont pas exemptes de tout reproche. Il y a de ces entreprises qui parrainent cette COP 21.
Oui, tout à fait. Donc on peut se poser des questions.
C'est ambigu, on peut se poser des questions, oui. Quand on parle des lobbying, de cette force des lobbying.
Ouais, on peut se poser des questions par rapport à leur légitimité et à la transparence, mais bon, on peut être attentif et suivre ça de près et revenir sur les décisions ou non qui auront été prises pendant ce rassemblement.
Alors ces décisions vont tomber quand?
Elles vont tomber, ça peut varier, mais on peut suivre ça pendant 2 à 3 semaines et voir ce que ça donnera.
Donc on aura le temps de revenir dessus dans une prochaine émission pour savoir si c'était encore un coup d'épée dans l'eau ou s'il y a des mesures concrètes qui ont été mises en place. On verra également, Muriel, dans une autre émission, comment limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Voilà, l'idée c'est de ne pas compter que sur nos dirigeants, mais de se dire que chacun à son échelle, localement, peut mettre en place des mesures simples et efficaces. Et donc voilà, on va voir en Lozère, quelles sont les initiatives locales qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre?
D'accord, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui va concerner quoi?
Qui va concerner l'alimentation. comment, dans notre alimentation, faire les bons choix pour préserver la planète.
Merci Muriel.
Merci.